Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue du grain à moudre d'été. Ce soir, qu'est-ce qui fait un bon chercheur ? Elles sont deux décisions du CNRS qui ont suscité incompréhension et colère chez de nombreux chercheurs ces dernières semaines. Deux décisions de recrutement, la plus récente le mois dernier. Elle concernait un jeune chercheur en économie, Maxime Menuet, classé premier au premier tour et finalement écarté au second. L'autre a été prise quelques jours avant. Un sociologue, Hakim Wallassi, a été recalé pour la troisième année d'affilée au second tour, du jamais vu, à tel point que près de 200 universitaires se sont mobilisés pour écrire une tribune dans le journal Le Monde. Des chercheurs français et étrangers qui ont dénoncé ce qu'ils ont appelé un acharnement contre Hakim Wallassi. Deux cas de déclassement donc, il y en a eu d'autres, de plus en plus même ces dernières années. Et si on a surtout parlé de ces deux-là, c'est parce qu'ils témoignent d'un malaise au sein de la communauté de la recherche. Malaise sur les conditions de recrutement, jugées opaques par certains, et plus largement sur ce qu'est ou sur ce que doit être un chercheur aujourd'hui. Ce qui est en cause, entre autres, c'est le profil du chercheur, son ou ses sujets de recherche, ses capacités à communiquer, à publier dans des revues étrangères et éventuellement à gérer une équipe. Un constat souligné aussi par quelques collectifs critiques de cette politique dite de l'excellence. D'où cette question aujourd'hui, qu'est-ce qui fait un bon chercheur ? Pour y répondre, trois invités ce soir. Antoine Petit, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président directeur général du CNRS depuis janvier 2018, agrégé de mathématiques, docteur en informatique et professeur des universités de classe exceptionnelle. En face de vous, Stéphane Beau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sociologie à l'université de Poitiers. Vous avez siégé pendant deux ans, entre 2016 et 2018, au comité national du CNRS, section 36, celle qui a recalé à trois reprises Hakim Wallassi. Vous en avez démissionné. En duplex de Bruxelles, Chloé de Ligne, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne, chercheuse qualifiée pour le Fonds de la recherche scientifique en Belgique. Vous êtes aussi membre d'un mouvement critique de la recherche telle qu'elle évolue aujourd'hui, l'Atelier des chercheurs pour une désexcellence des universités. Nous allons revenir dans le détail sur les quelques points que je viens d'exposer. Avant cela, avant de chercher à savoir donc ce qui fait un bon chercheur, essayons déjà de voir ce qu'est un bon chercheur aujourd'hui, en quoi consiste son travail, notamment Antoine Petit.
Alors c'est une question difficile, et si on avait un maître étalon qui soit capable de mesurer au centimètre près la qualité d'un chercheur, ça se saurait. C'est pas plus facile de mesurer la qualité d'un chercheur ou d'une chercheuse que celle d'un footballeur, d'un acteur ou d'un journaliste.
Avant même de parler de la qualité de son travail, en quoi consiste le travail d'un chercheur ?
Le travail d'un chercheur, d'abord ça peut dépendre des disciplines. Dans certaines disciplines c'est des sports très individuels, dans d'autres disciplines c'est au contraire des sports très collectifs. Et un chercheur, il doit, selon la formule consacrée, il doit trouver, il doit inventer, il doit créer. Et ça va se traduire par des publications, par des communications dans des conférences, dans certaines disciplines par des livres, dans d'autres disciplines par le dépôt de brevets ou de dépôt de logiciels. Donc ça dépend des disciplines. Et encore une fois, c'est parce que c'est multiforme, la créativité d'un chercheur, que c'est difficile à évaluer.
Stéphane Beau.
Oui, je rajouterais une chose essentielle, c'est qu'un bon chercheur, c'est un chercheur homme ou femme qui travaille beaucoup. Je pense que c'est un métier de passion, la recherche. Donc on ne peut pas la faire à l'économie, il faut la faire en étant complètement investi. Et c'est parce que les meilleurs chercheurs, en tout cas dans la discipline que je connais, la sociologie, et j'imagine que c'est pareil pour les sciences, sont des passionnés qui travaillent largement plus que 8 heures par jour et qui souvent n'ont pas de week-end, pas beaucoup de vacances et qui sont voilà dévorés par leur passion. Et donc, bien évidemment, pour qu'ils soient chercheurs de manière institutionnelle, il faut qu'ils publient. Donc, effectivement, ce sera, j'imagine, un des enjeux de la discussion.
Ouais.
Où est-ce qu'on publie? Dans quel type de support? Sur quel type de support? Avant, c'était un livre. Maintenant, c'est de plus en plus des articles en anglais pour dans certaines disciplines. Et j'ai trouvé intéressant quand même, quand vous, Monsieur Petit, quand vous parliez de « c'est un sport ». Effectivement, dans la notion de sport, il y a quand même toujours cette idée qu'on est dans la compétition. Alors, il ne s'agit pas de nier le fait qu'il y ait une concurrence, mais je pense que c'est ce que j'ai dit moi à mes étudiants. Je dis un bon chercheur, un enseignant chercheur, un bon chercheur, il va s'imposer par son travail, par ses publications, par l'intérêt de son travail, par la capacité qu'il a de défricher un terrain nouveau. C'est ça qui fait un bon chercheur. Mmh. Il y a bien sûr, on va revenir sur cette idée d'inventivité, mais l'inventivité, elle s'appuie, elle n'est pas individuelle, entre guillemets, elle s'appuie aussi effectivement sur du collectif. Aujourd'hui, c'est vrai que dans beaucoup de disciplines, un chercheur, il travaille aussi en collectif.
En particulier, si je peux me permettre, je suis complètement d'accord avec ce que vient d'être dit, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de disciplines qui sont peut-être ni la sociologie, ni les maths ou l'informatique d'où nous venons, mais dans lesquelles il y a une notion d'équipement. Si vous êtes chercheur au CERN, en Suisse, bah, vous êtes tributaire de l'équipement, et cet équipement, c'est des centaines de personnes, et parfois les publications sont co-signées par plus de 1000 personnes, parce que là, on voit bien que, je reprends cette analogie avec le sport, mais c'est un sport qui est très collectif.
Chloé Deligne, sur cette question, sur le...
Oui, si je peux intervenir.
Bien sûr.
Il me semble que dans les éléments qui ont été donnés par vos deux invités en plateau, on est déjà dans un registre effectivement relativement restreint par rapport à ce que c'est que la recherche aujourd'hui. Parler de sport, parler de compétition, on sent dans ce vocabulaire s'instiller cette idée que ce n'est que de la compétition. Or, je pense qu'au contraire, la fonction de chercheur ou l'activité des chercheurs est beaucoup, beaucoup plus variée et doit être beaucoup plus variée que ses rapports à la compétition et au sport. Je pense qu'un bon chercheur, c'est aussi quelqu'un qui sait transmettre. Et d'ailleurs, souvent, le chercheur ou la fonction de chercheur est couplée à la fonction d'enseignant. C'est quelqu'un qui peut faire des relais avec la société civile notamment, c'est quelqu'un qui peut faire le relais avec des territoires, avec des ancrages locaux. Et ça, en général, ce sont des choses qui sont complètement ignorées ou passées sous silence dans la définition de la recherche aujourd'hui, particulièrement quand il s'agit des sciences sociales et humaines.
Antoine Petit.
Moi, je partage tout ce qui a été dit. C'est vrai qu'un chercheur, c'est aussi tout ça. Au CNRS, on a la particularité de que nos chercheurs ont un statut de chercheur et pas d'enseignant-chercheur. Et c'est vrai que la plupart enseignent, mais c'est pas une obligation.
C'est ce qui fait la différence, d'ailleurs, entre le CNRS et l'université.
Aujourd'hui, oui. Le statut d'un enseignant-chercheur, il partage son temps entre de l'enseignement, de la recherche et puis de l'administration, j'allais dire malheureusement pour beaucoup. Le statut de chercheur permet à ceux qui ne le souhaitent pas de ne pas enseigner. Mais encore une fois, la plupart d'entre eux ont envie d'enseigner parce que transmettre ses connaissances, transmettre le savoir, je crois que ça fait aussi partie des qualités d'un chercheur ou d'une chercheuse.
Stéphane Beau.
Je remercie notre collègue de Belgique, d'avoir historienne, d'avoir insisté effectivement sur d'autres points. On est allé trop vite, mais bien évidemment, vous avez raison. La recherche, j'ai dit, c'est une passion, c'est aussi la joie de faire des découvertes et de les transmettre. Donc je suis entièrement d'accord avec Stéda. Un chercheur, il transmet ses connaissances, ses découvertes. La seule différence qu'on vient d'indiquer entre la recherche au CNRS et à l'université, c'est que pour des raisons matérielles, on pourrait dire que l'enseignant-chercheur à l'université aujourd'hui, compte tenu des charges qui pèsent sur lui ou sur elle dans son travail quotidien, a malheureusement de moins en moins de temps pour faire de la recherche. Donc c'est pour ça que c'est si important le CNRS en France, et en particulier en sciences dures, mais aussi en sciences sociales, c'est que les chercheurs CNRS ont quand même beaucoup plus de temps pour chercher, et le temps, c'est la matière première du chercheur. Donc j'insiste sur ce point en tant qu'universitaire.
On va y venir, on y reviendra, c'est un point très important. Chloé Deligne.
Oui, je voulais aussi, souvent j'ai l'impression dans les discours ou dans les définitions du chercheur ou de l'activité de recherche, on est fort tourné toujours vers l'innovation, le nouveau, la découverte, qui est effectivement parfois un des résultats de la recherche. Et on oublie souvent de dire qu'on est capable, entre guillemets, de découvrir de nouvelles choses que parce qu'on s'inscrit dans des lignées qui ont travaillé avant nous, dans des lignées qui nous ont transmis des choses, et que ça aussi, c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent de dire, je dirais, à l'ère de l'excellence, où tout n'est jugé que par la nouveauté.
Stéphane Beau.
Oui, merci Chloé Deligne pour cette précision, parce que justement, on va parler de ce que je connais, la sociologie. Moi, je pense qu'effectivement, la sociologie en France, on sait aujourd'hui, grâce aux travaux d'historiens des sciences sociales, elle a été profondément renouvelée, musclée, on pourrait dire, par les travaux de Bourdieu et Passeron dans les années 60-70. Et moi, je viens de là, je viens de cette tradition-là, et je pense qu'effectivement, un des enjeux liés à ces déclassements renvoie à ces querelles théoriques, à mon avis, qui n'ont pas lieu d'être, parce que justement, la force de cette tradition-là, c'est de cette tradition de Bourdieu et Passeron, c'est d'avoir fait en sorte que la sociologie soit à la fois exigeante théoriquement et exigeante empiriquement. Ce qui fait que, sans nous jeter des fleurs, la sociologie française, malgré tout, même s'il n'est pas assez traduite, elle a atteint depuis 30-40 ans un excellent niveau, notamment dans les équipes CNRS. Et donc, je suis sensible à ce que notre collègue Chloé Deligne a dit sur cette histoire qu'effectivement, on ne vient pas de nulle part. Et la sociologie, c'est une discipline particulièrement fragile, on pourrait dire, paria, disait Weber ou Bourdieu. Et donc, on a besoin de cet ancrage, on a besoin de cette inscription dans le temps. Parce que, comme vous le savez sans doute, il y a un sociologue connu, je ne prononçais pas le nom, qui a fait soutenir une thèse d'une astrologue. Donc, on est aussi, en tant que sociologue, confronté à ces difficultés-là. On a dans le champ, on pourrait dire, des personnes qui n'ont pas fait complètement le boulot. Et donc, les sociologues sérieux, et ils sont largement majoritaires, on doit se battre et on doit aussi, bien évidemment, s'inscrire dans ces lignées théoriques. Il n'y a pas que Bourdieu, il y a Touraine, il y a Crozier, il y a eu un tas de traditions, Boudon, il y a un tas de traditions sociologiques extrêmement vivaces en France qui ont fait, on pourrait dire, non pas la gloire, mais le sérieux de la sociologie en France.
Cet astrologue que vous mentionnez, pour ceux qui se posent la question, je crois que c'est Elisabeth Tessier. Hein,
vous ne... Oui.
Voilà, c'est ça. On va pas épiloguer là-dessus. Revenons au recrutement, puisque c'est aussi l'un des éléments d'actualité, recrutement critiqué ces dernières semaines. Vous en avez déjà parlé, Antoine Petit, on a évoqué les deux cas concernés, je les rappelle, Maxime Menuet, chercheur en économie, Hakim Wallassi, lui, en sociologie, un courant sociologique d'ailleurs auquel il appartient, qu'on pourrait qualifier de critique. Dans leur déclassement, qu'est-ce qui est en cause là? Puis on va revenir ensuite sur le protocole de recrutement au CNRS, mais qu'est-ce qui est en cause dans ces deux dossiers?
Je crois qu'il faut rappeler quelques chiffres, et tout à l'heure, notre collègue bruxelloise se plaignait du fait qu'on utilise compétition, mais il faut rappeler quelques chiffres. C'est-à-dire que le CNRS, et j'ai récupéré les chiffres de cette année, tout récent, c'est 5 800 candidats, pour 250 postes. Donc là, qu'on le veuille ou pas, il y a une forme de compétition qui est extrême. Je crois que la manière dont ça se passe au CNRS, c'est très codifié, parce qu'on recrute des gens qui ont un statut de fonctionnaire, et donc on a un jury d'admissibilité qui est régi par des textes, puis on a un jury d'admission qui est régi par des textes, ça n'est pas des décisions individuelles. Le jury d'admissibilité, il y a 46 jurys d'admissibilité différents, chacun est constitué d'une vingtaine de personnes, il y a une dizaine de jurys d'admission différents. Et je crois que dans l'ensemble, ça se passe très bien. Et j'en veux pour preuve le fait que pas plus tard qu'hier, les 46 présidents des jurys d'admissibilité, probablement un peu inquiets d'un certain nombre de textes, si on peut paraître, ont décidé de faire une motion en expliquant que, je lis, pour se féliciter des modalités actuelles de recrutement au CNRS. Donc je pense que l'immense majorité de la communauté scientifique considère que ces modalités, elles sont probablement pas parfaites, parce que rien n'est parfait, mais globalement, elle fonctionne bien. Le CNRS fête ses 80 ans cette année, on recrute des gens chaque année, et globalement, ça se passe bien.
Même s'il y a de plus en plus de déclassements au cours des dernières années entre ces deux jurys, admissibilité et admission.
Ça n'est pas vrai qu'il y ait plus de déclassements. Il faut rappeler les chiffres. Cette année, 250 postes, 9 déclassements, ou plutôt 9 changements de classement, donc on est à 4%, à moins de 4%, et on n'a jamais dépassé, on est toujours dans ces alentours-là si on prend les 10 dernières années.
Tout dépend de ce qu'on appelle des classements, c'est-à-dire si on sort vraiment de ceux qui vont revenir ou si on a juste changé de place.
Alors, d'abord, le terme déclassement n'est probablement pas adapté, je veux dire, on a des concours avec une phase d'admissibilité et une phase d'admission, et on sait bien qu'être admissible ne veut pas dire qu'on est admis, et déclassement, pour moi, j'utilise le mot déclassement, je pense qu'on soit d'accord sur le terme, sur le fait que quelqu'un classé par le jury d'admissibilité, si le concours s'était arrêté là, il aurait été pris, alors que si, après le jury d'admission, il n'est pas pris.
Même quand on est premier au jury d'admissibilité.
Donc c'est ça le nombre, c'est 9 personnes sur 250. Donc on est dans des cas très faibles. Dans les deux cas que vous évoquez, c'est des gens qui ont décidé de faire des recours, parce qu'il y a des possibilités de faire des recours. Un devant le tribunal administratif, un autre devant le défenseur des droits. Donc vous comprendrez que je ne commenterai pas ces cas-là, puisqu'il doit
être... Pour discrimination devant le défenseur des droits.
Oui, alors on pourra revenir sur cette accusation qui est très grave, qui d'une certaine façon est diffamante pour les gens qui ont constitué le jury d'admission, et je n'en fais pas partie. Et je crois qu'il n'est pas compris par l'ensemble des scientifiques.
C'est un problème d'âge, rapidement, parce qu'Hakim Wallassi a 44 ans.
Non, ce n'est pas un problème d'âge. On ne regarde pas l'âge des gens.
Jamais.
On fait attention à ne pas dériver sur la moyenne, mais ça ne fait pas partie des critères, l'âge.
Stéphane Beau.
Oui, mais je ne serais pas entièrement d'accord, bien évidemment, mais je veux quand même insister sur un point très important pour le public et les auditeurs qui ne connaissent pas bien ces structures. Donc le jury d'admissibilité, il est composé de 2/3 de personnes élues et 1/3 de personnes nommées par le CNRS. Il faut bien savoir, dans les élus, il y a des chercheurs CNRS, mais il y a aussi des universitaires comme moi, il y a aussi des gens de chercheurs de l'INSERM ou parfois de l'INED.
Élus par qui d'ailleurs ?
élus par leur père.
L'ensemble de la communauté.
Voilà. Et donc, ce qui est important, c'est que le jury d'admissibilité, c'est pour ça qu'on tient tant à ce rôle-là, c'est nous qui étudions en sociologie plus de 240 dossiers pendant des semaines. Ensuite, chacun fait des rapports, il y a deux rapports. Ensuite, on fait une première réunion dite d'admissibilité. On va faire en sorte de sélectionner une partie des candidats pour en faire passer des auditions. Et lors de ces auditions, et ça dure parfois 8 jours, on va pendant toute la journée auditionner 50 candidats, 55 candidats, en sociologie c'était comme ça, sur leur projet de recherche. Et donc, on pourrait dire que le travail d'une section comme section 36, comme toutes les autres sections, c'est un travail extrêmement prenant, sérieux, où tous les 18 membres de la section 36, bon, on est investis corps et âme dans ce travail. Ensuite, on fait un classement. Et le problème pour nous, bien évidemment, c'est que le jury d'admission, il intervient après coup, et que classiquement, il intervenait à la marge pour faire ce qu'on appelle des classements, mais c'était vraiment à la marge pour des questions. Voilà. Tandis que là, il y a eu, en tout cas en sociologie, dans la section 36, la première année, il y a 2 ans, on a éliminé les 4 sociologues. Et le jury d'admission, là où ça pose un vrai problème, c'est qu'effectivement, il est composé par la direction du CNRS, et que bien évidemment, les membres du jury d'admission n'ont pas la connaissance des dossiers qu'ont les pairs du jury d'admissibilité. Donc, bien évidemment, il y a à ce niveau-là une vraie entorse, entre guillemets, à ce principe cardinal qu'est le jugement par les pairs. C'est pour ça que nous avons été si offensifs par rapport à ça, parce que, bien sûr, on a considéré que là, et peut-être que c'est particulier à la discipline, qu'est la sociologie. Il faudrait, bien sûr, mener l'enquête pour savoir, et ça, on ne sait pas, bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé en haut lieu au CNRS pour opérer, notamment il y a 2 ans, ces déclassements. Et c'est parce que l'année d'après, il y a eu les mêmes, un peu moins, mais les mêmes déclassements, que nous avons été 6 de la section du jury d'admissibilité à démissionner, parce que en tant qu'universitaire, c'est vrai que j'ai pas envie de passer mon temps à faire le guignol, si on peut dire.
Antoine Petit, rapidement, et Chloé.
Oui, bon, juste une petite anecdote, comme vous le rappelez, j'étais nommé en janvier 2018, en 2017, j'étais pas là, je pense que monsieur Beau sera d'accord avec ça. Juste, encore une fois, moi je suis complètement d'accord sur ce qu'a dit Stéphane Beau sur l'importance du jury d'admissibilité. Et c'est pour ça que, encore une fois, les changements de classement sont extrêmement mineurs, c'est moins de 4%. Dans les cas.
Il n'y a pas de jeu de dupe entre les
Et dernier élément qui est important, c'est que le jury d'admission, il n'est pas nommé par le président du CNRS, il est nommé par la ministre. D'accord ? Et qu'il est constitué de 5 personnes qui sont proposées par la direction du CNRS, c'est vrai, et de 5 personnes qui sont des membres élus du jury d'admissibilité.
Autres sections aussi.
Donc, il y a une continuité entre les jurys d'admissibilité et les jurys d'admission. Alors après, pour être très technique, il y a 46, je vous l'ai dit, jurys d'admissibilité, il n'y a que 10 jurys d'admission. Et par exemple, dans l'Institut, il y en a un jury d'admission par institut du CNRS. Et dans l'Institut des sciences humaines et sociales, dont dépend bien sûr la sociologie, il y a plus de jurys d'admissibilité que 5. Et donc, c'est vrai qu'il y a des jurys d'admissibilité qui ne sont pas représentés. Mais simplement, cette précision, c'est que c'est pas le PDG du CNRS qui tout seul décide de nommer 10 personnes qu'il a trouvées dans la rue. C'est quand même des gens qui sont tous spécialistes de sciences humaines et sociales, ou en tout cas tous des scientifiques, et encore une fois, nommés par la ministre.
Chloé Deligne.
Oui, je souhaiterais réagir par rapport à cette question, pas du tout pour donner un avis technique sur la composition des jurys du CNRS, parce que je suis pas du tout habilitée à le faire, mais peut-être pour revenir plus en amont sur quelque chose qui me semble quand même très important de dire, c'est que ces phénomènes de recours, de souffrance qui sont expérimentés par les chercheurs au cours de ces processus d'évaluation sont en fait déjà le résultat d'un système qui produit une très grande violence. Pourquoi ? Ce qu'on demande aujourd'hui à un chercheur, et je ne parle pas spécialement de la nomination au CNRS, mais plus généralement du paysage de la recherche dans nos contrées, en Europe, ça devient des dossiers, je dirais, d'une exigence terrible, c'est-à-dire avec déjà... Bon, je ne sais pas quel est l'âge des chercheurs qui sont concernés par l'affaire dont vous parlez, mais...
27 ans pour Maxime Menuet, 44 ans pour Hakim Ouallahci.
L'âge moyen de recrutement au CNRS, c'est 33 ans.
Donc voilà, c'est ça. Donc c'est à peu près les mêmes âges pour ce qui concerne le FNRS ici en communauté Wallonie-Bruxelles, en Belgique. Donc autour de 35 ans. Ça veut dire que ce sont des personnes qui sont stabilisées, grosso modo, 13 ans après la sortie de leurs études. Pendant ces 13 ans, ils ont fait, comme vous le dites, un parcours du combattant qui a été fait de gages de productivité, de gages aussi de loyauté par rapport aux personnes avec lesquelles ils travaillent. Parfois, ils ont été exploités aussi dans certains services par leurs patrons. C'est quand même des choses qui se disent de plus en plus et qui arrivent dans des états où ils ont fait des sacrifices énormes pour arriver là. Alors la violence institutionnelle qui se joue dans des petites choses, vous parlez de 4% comme si c'était rien du tout ou de quelques cas, mais il faut bien se voir que derrière ces cas, il se cache des vies qui sont brisées. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment remettre au devant de la pensée sur la recherche et la façon dont elle s'organise aujourd'hui. C'est que c'est un monde qui produit des violences et des souffrances terribles.
Antoine Petit.
Il me semble que les gens qui effectivement candidatent et ne sont pas pris, c'est vrai que c'est plus qu'une déception. Mais là, on ne parle pas de 4%, on parle plus de 5000 personnes chaque année. Et donc, aujourd'hui, dans une situation, on a plus de 5000 candidats, on a 250 postes, ce qui n'est pas beaucoup. Même si la situation était meilleure, on en aurait peut-être 300 ou 350. Il en resterait une immense majorité qui n'aurait pas de poste au CNRS. Heureusement, un certain nombre de gens qui n'ont pas de poste au CNRS peuvent trouver des postes à l'université. Certains, d'ailleurs, préfèrent l'université. Il n'y a pas d'interclassement entre le CNRS et l'université. Mais je crois que oui, on est dans un monde, il ne faut pas non plus se leurrer. On est dans un monde compétitif. Et aujourd'hui, je pense que la France ne peut pas se permettre d'offrir un statut de fonctionnaire aux 5000 personnes qui candidatent, que ce soit à l'université ou au CNRS. Donc oui, c'est vrai, on est dans un monde qui est compétitif. Ce qui me semble extrêmement important, et je pense qu'il faut qu'on y vienne, c'est que le système soit le plus juste possible. Et donc effectivement, il faut combattre les quelques cas où des mandarins exploitent les étudiants.
Ça existe,
arrive,
ça, ouais.
C'est minoritaire, mais ça peut arriver. Il n'y a aucune raison que le monde de la recherche soit mieux que tous les autres, la proportion d'escrocs.
Vous en avez chez vous au CNRS ?
Mais j'espère qu'on en a le moins possible. Et on est extrêmement vigilants là-dessus. On fait beaucoup d'efforts sur les questions d'intégrité scientifique, de déontologie. Maintenant, le CNRS, vous savez, c'est 32 000 personnes, donc qu'il y ait quelques vilains petits canards dans les 32 000. Si ce n'était pas le cas, il faudrait qu'on brevette notre solution.
Stéphane Beau.
Juste de redire, effectivement, la violence institutionnelle, c'est vrai que pour ces personnes qui ont été classées, notamment en 2017, deux fois première à ex-aequo, il paraît qu'il ne fallait pas faire des ex-aequo, on ne connaissait pas la règle interne, mais peu importe, on est classé premier au CNRS pendant trois mois. Tout le monde sait que vous êtes premier au CNRS. Quand vous allez candidater à l'université, on ne vous prend pas parce que vous êtes déjà classé au CNRS. Il est pris, ça fait une place de libre pour les autres. Donc ça veut dire aussi qu'il y a aussi, il faut raisonner aussi en termes de système. C'est-à-dire quand on est pris au CNRS, même si la plupart des gens ne savent pas qu'il y a une jurée d'admission, donc ça prive de possibilité de candidater à l'université. Donc ça, c'est extrêmement violent. Et je rappelle quand même par rapport à ça qu'il y a eu récemment une lettre que vous avez certainement lu, monsieur le président, des médailles d'or, bronze et argent au CNRS qui ont rappeler cette exigence de rendre la procédure plus juste, justement, et en rendant les décisions du jury d'admission publiques, en cassant ce qui est quand même le cœur du problème pour moi, c'est l'opacité des décisions. Ça me semble très important parce que justement, si on veut traiter de manière juste les candidats, on ne peut pas leur faire croire « Ah tiens, vous êtes pris par le jury d'admissibilité et peut-être que vous aurez une chance d'être pris par le jury d'admission. » Le jury d'admission doit, à mon avis, rester dans son rôle qui est d'agir à la marge.
Antoine Petit.
Je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il fait, encore une fois, moins de 4% des cas. Et je crois que c'est important, effectivement, d'expliciter un certain nombre de cas dans lesquels le jury d'admission... Quel peut être l'apport du jury d'admission par rapport au jury d'admissibilité ? Comme l'a parfaitement expliqué Stéphane Beau tout à l'heure, le jury d'admissibilité examine en détail les travaux. Maintenant, il y a une dimension qui est importante, c'est la dimension qui est qu'à la fin, c'est le CNRS, c'est l'employeur de ces personnes, et donc il va avoir une vision qui va être plus globale. C'est-à-dire que si par exemple, pendant 5 ans, vous vous rendez compte, je prends l'exemple des mathématiques, chacun le sien pour être un peu plus pédagogue, si pendant 5 ans, vous vous rendez compte que vous avez recruté aucun probabiliste, et puis que le premier sur la liste complémentaire du jury d'admissibilité, c'est justement un probabiliste, vous pouvez peut-être vous dire, je vais comparer le premier de la liste complémentaire avec le dernier de la liste principale, peut-être qu'il n'y aura pas une différence si énorme que ça, et là vous allez vous dire, on va recruter un probabiliste. La même chose se passe pour le recrutement féminin, on a un déficit de chercheuses au CNRS, on fait un gros effort sur cette dimension-là, ça peut être aussi un élément qui est pris en compte. Troisième élément, on l'a dit, dans le système français, nos laboratoires sont des unités mixtes avec les universités. On peut imaginer qu'une université a beaucoup recruté dans un domaine et que le jury d'admission dit « voilà, on va prendre ça en compte ». Mais encore une fois, j'insiste là-dessus, désolé d'être un peu lourd, mais c'est 9 cas sur 250. Ce qui montre bien qu'il y a un total respect des jurys d'admissibilité.
Chloé Deligne.
Oui, Juste une précision, quand je parle de violence institutionnelle, c'est évidemment pas seulement par rapport aux candidats qui ont été effectivement classés ou déclassés, mais c'est par rapport à la cohorte très importante et de plus importante des chercheurs qui postulent. Alors je sors vraiment du cas spécifique du CNRS sur lesquels, comme je le disais, j'ai pas à intervenir, mais de manière plus générale, il y a quand même, c'est le résultat d'un système qui produit de plus en plus de candidats et de candidates, mais quand même plus de candidats, et qui organise une compétition effrénée. Et donc ça, je pense que ça concerne pas seulement... Bon, c'est encore plus violent quand il s'agit de ces classements ou déclassements, comme vous le dites, mais c'est de manière plus générale sur... Effectivement, il y a 250 postes pour 5800 candidats. Pour le CNRS, on pourrait citer des chiffres similaires dans bien d'autres institutions. Eh bien, il y a tous ceux-là, tous ceux qui n'ont pas été repris. Alors dedans, effectivement, il y a des profils très divers, de moins en moins divers peut-être, d'ailleurs on pourra y revenir, mais c'est aussi toute cette cohorte-là dont je parle, c'est pas juste les déclassements. Et si vous me permettez, puisqu'on parle de la question des femmes dans la recherche, si j'ai bien les bons chiffres en tête, on est sur un pourcentage de l'ordre de 35% de chercheuses au CNRS par rapport à 65% de chercheurs.
Antoine Petit confirme.
Voilà, donc c'est sont des chiffres globaux, donc par discipline ça peut changer très fort aussi, donc c'est à peu près les mêmes chiffres qu'on trouve au FNRS de ce côté-ci de la frontière. Alors moi, il y a quelque chose que j'aimerais bien dire par rapport à ça. Tout le monde se lamente du fait qu'il n'y a pas assez de femmes dans la recherche comme dans plein d'autres domaines. Mais on se pose jamais ou rarement la question de savoir, en fait, pourquoi elles ne postulent pas. Parce qu'en fait, le problème est là. C'est pas qu'il y aurait des biais dans la sélection. En général, les institutions sont attentives à ça. Mais c'est parce qu'elles ne sont même pas candidates.
Antoine Petit, rapidement, et Stéphane Beau, je voudrais qu'on avance aussi, parce qu'on a plein d'autres sujets à aborder.
Oui, moi je voulais justement avancer un peu, je pense qu'il y a un vrai sujet qui se pose, qui est à mon avis tout à fait digne d'attention, c'est cette espèce de course à la publication qui a augmenté au cours des dernières années, avec ces fameux H-index, ce fameux impact factor, où là, finalement, je crois qu'on est allé beaucoup trop loin. Et moi, le message que j'essaye de faire passer au sein du CNRS, c'est que ce sont aussi les communautés scientifiques qui ont leur part de responsabilité et que cette course en avant, où finalement, on prime les aspects syntaxiques et quantitatifs, sont probablement pas les bons. Il faut réfléchir, et c'est toute la dimension science ouverte qui est extrêmement importante et dont on va probablement reparler.
Voilà, c'est un sujet dont on va parler. Je voudrais juste qu'on avance un peu en parlant des profils. Chloé Deligne l'a évoqué il y a quelques instants. Ce qui se joue aussi, Stéphane Beau, lors du recrutement, c'est la diversité des profils. En tout cas, on espère que c'est divers. Les chercheurs du CNRS sont-ils tous faits du même moule? Ou est-ce que lors de ces jurys d'admissibilité auxquels vous avez appartenu, puis jurys d'admission, c'est un point auquel on fait attention?
Eh bien, justement, notre section essayait de faire attention à ce point, parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de surprises. Quand vous êtes, en tout cas dans une section en sociologie, on va recruter, on va auditionner des candidats qui ont fait un très bon parcours universitaire, de très bonnes thèses, qui ont publié des articles intéressants dans des revues relativement consacrées, et qui ont, et ça c'est très important, un projet de recherche. Et ça c'est un point très important, je ne sais pas comment ça se passe en sciences dures, mais pareil. En tout cas en sociologie, quand on auditionne les personnes, on les auditionne sur leur projet de recherche. C'est pour ça que le débat, entre guillemets, par rapport aux déclassés en sociologie, c'est pour ça qu'on était si énervé, entre guillemets, en colère. On le reste, c'est parce qu'en fait, on considère qu'on a écouté pendant des heures des chercheurs, on a lu leur projet de recherche, on a discuté avec eux leur projet de recherche, on leur a posé des questions. Une audition, c'est pas 5 minutes, c'est presque une demi-heure, où tous les membres de la section qui ont des choses à dire interrogent le candidat sur leur projet de recherche, son intérêt, sa faisabilité. Et donc, si je reviens sur le cas, justement, de Hakim Ouelassi, que je connais par ailleurs, mais c'est pas mon avis fondamental, c'est que son projet de recherche a été jugé par les 3 comités, les 3 jurys, comme particulièrement intéressant, puisqu'il travaille sur ce qu'il appelle les intellectuels de cité, des gens qui habitent dans les cités HLM et qui ont développé des dispositions intellectuelles qui ne passent pas par l'université, mais par des formes d'autodidaxie très intéressantes. Et tous les chercheurs qui étaient là, juristes aussi et sociologues, ont trouvé que ce projet était intéressant et permettait, parce que c'est ça pour moi en tout cas en tant que sociologue, c'est voilà, qu'est-ce que vont être les chercheurs qui vont développer lors des 10 années consécutives à leur recrutement, des recherches intéressantes. Et c'est pour ça qu'on a défendu à ce point, pas moi seul, mais l'ensemble de la comité, moi j'avais pas le droit de parler, parce que j'avais un conflit d'intérêt, mais tous les collègues ont dit, voilà, c'est un très beau sujet. C'est ça qui nous, voilà, ça me semble absolument central, cette histoire de, on est recruté au CNRS sur un sujet de recherche, sur un projet de recherche.
Antoine Petit.
Alors, la diversité des profils, elle est absolument essentielle. Et le CNRS a cette particularité qui est liée au fait que nos chercheurs n'ont pas d'obligation d'enseigner, c'est que nous recrutons y compris des gens qui ne parlent pas le français. Et on a, cette année, les derniers chiffres, c'est 28% de chercheurs qui n'ont pas la nationalité française. Et donc, vous voyez bien qu'on n'est pas dans des profils du normalien ou du polytechnicien un peu caricature, puisque on recrute des gens qui viennent de Chine, des États-Unis, de Russie, de tous les pays du monde.
Vous arrivez encore à attirer de jeunes talents qui viennent de l'étranger au CNRS ?
On est à 28% de gens. Donc c'est,
et par rapport aux années précédentes,
tout à fait significatif.
Est-ce qu'il y a plus de candidatures, moins de candidatures ?
Alors, c'est honnêtement, c'est à peu près les mêmes. J'ai pas les chiffres à vrai virgule. Pour le moment, on n'a pas de signal particulier. On a un autre signal qui est plus général et qui concerne pas que les Français, qui concerne pas que les étrangers, mais l'ensemble des candidats. C'est qu'on est là encore dans une compétition qui est de plus en plus internationale et de plus en plus sévère, et que les chercheurs aujourd'hui sont sensibles à l'environnement scientifique que vous allez leur offrir, qui inclut certes leur salaire personnel, et on se met à avoir des écarts qui sont extrêmement importants d'un pays à l'autre, mais aussi le package. Parce que comme on l'a dit, l'âge moyen des recrutements au CNRS, c'est 33 ans. Donc c'est déjà des gens qui sont à 5, 6 ans après la thèse, qui ont déjà envie de constituer une petite équipe. Et la capacité de leur fournir un environnement scientifique personnel est quelque chose d'extrêmement important. Et là encore, on est dans une compétition qui devient compliquée au niveau international.
Qu'est-ce qui fait un bon chercheur ? C'est la question du grain à moudre d'été ce soir sur France Culture. Trois invités pour y répondre. Vous venez de l'entendre, Antoine Petit, le PDG du CNRS. Chloé Deligne, en duplex de Bruxelles, historienne. Et Stéphane Beau, sociologue, à qui je donne la parole.
Je vais juste dire aussi que l'attractivité du CNRS renvoie aussi, malheureusement, aux crises de recrutement dans les autres pays. Moi, j'étais frappé de voir en sociologie le nombre d'Italiens, par exemple, qui viennent au CNRS tenter leur chance parce que leur système de recherche s'effondre en Italie, aussi ce qui se passe en Turquie. Donc là aussi, on n'a pas encore parlé de ça, mais quand même globalement, il faut redire la question centrale des postes. Moi, je reste persuadé que dans les SHS, il y a eu, le syndicat a sorti un chiffre intéressant sur la baisse d'un tiers en 10 ans du nombre de postes en sociologie et en SHS. C'est très important parce que je pense que le CNRS a un rôle majeur dans justement la consolidation des sciences sociales en France. Et on a besoin plus que jamais de sciences sociales en France. Moi, je suis un défenseur, un militant des sciences sociales en France qui sont attaqués de toutes parts, mais on voit très bien que dans le contexte actuel, sans parler des attentats et de l'argent qu'il y a eu sur la radicalisation, mais globalement, on a un besoin de compréhension, les gilets jaunes, etc. On est dans une société qui est soumise à d'énormes tensions, et contrairement à un certain discours qu'on entend ici ou là, moi, je pense que le CNRS devrait être beaucoup plus offensif pour créer davantage de postes, parce que la tension dont on a parlé est aussi liée au fait qu'il y a de moins en moins de postes. Et donc, on a quand même, globalement, depuis 15 ans, on a des jeunes chercheurs qui ont des dossiers vraiment excellents. Donc, on a ce paradoxe qui voit l'émergence de très bons jeunes chercheurs et des postes qui diminuent constamment.
Sur ce sujet, et avant de donner la parole à Antoine Petit, je voudrais vous faire écouter l'un des extraits du discours prononcé par Édouard Philippe, le Premier ministre, lors du 80e anniversaire du CNRS. C'était le 1er février.
Mesdames et messieurs, vous l'avez perçu, notre ambition, c'est que la France devienne l'un des pays les plus attractifs au monde par l'excellence de son accueil et de sa recherche. Que nous ne manquions pas les virages décisifs de l'économie de la connaissance, que nous restions dans la droite ligne des objectifs de Lisbonne, monsieur le commissaire. C'est pourquoi j'ai demandé à madame Frédérique Vidal de mettre en chantier l'élaboration d'une loi de programmation pluriannuelle pour la recherche. Nous devons nous donner des perspectives. Nous devons travailler dans le temps. Nous devons vous donner des perspectives. L'objectif de cette loi de programmation pluriannuelle, c'est d'engager dans la durée les transformations dont notre recherche a besoin pour être au rendez-vous de cette ambition et de vous donner à vous du temps, des moyens et de la visibilité.
Des perspectives écrite, lancée, dessinée par le Premier ministre, de la visibilité, du temps, on va y venir, et des moyens, donc Antoine Petit, est-ce que le CNRS va bénéficier dans les années qui viennent de plus de moyens de la part de l'État ?
Mais je le souhaite. Je voudrais rebondir juste, si vous me permettez, sur ce qu'a dit Stéphane Beau. Je suis convaincu qu'une des forces majeures du CNRS, c'est la présence en son sein des sciences humaines et sociales. Et je crois que c'est tout à fait... C'est pas unique, mais c'est pas si courant de ça que d'avoir un grand organisme de recherche avec à la fois les sciences dures et les sciences humaines et sociales. Et je pense que l'interaction entre les unes et les autres est absolument clé. On parle beaucoup des objectifs de développement durable des Nations Unies. Je pense que ce sont des domaines sur lesquels on a besoin de coopération. On parle d'intelligence artificielle. Là encore, on a besoin de collaboration entre les uns et les autres. Et c'est une des forces du CNRS. Et je ne crois pas que les sciences humaines et sociales aient été plus pénalisées que les autres. C'est vrai qu'on n'est pas dans une période très faste en termes de moyens. Que je pense que la loi qui est annoncée, dont aucun d'entre nous ne sait exactement sur quoi elle va déboucher, mais je pense que le discours que vous avez venu nous faire écouter traduit une ambition. Et à un moment, il faudra que cette ambition, elle se concrétise par des moyens financiers. Encore une fois, parce que la question qui se pose, c'est à la fois de recruter, mais aussi de recruter bien dans...
C'est la question.
De recruter bien, non, au sens bien, et c'est-à-dire de fournir un environnement aux jeunes chercheuses et aux jeunes chercheurs qui, encore une fois, quand on les recrute au CNRS, mais c'est pareil à l'université, on les recrute souvent après un postdoc, deux postdocs, trois postdocs. Donc c'est des gens qui sont allés voir le monde, c'est des gens qui peuvent comparer et qui vont pas aller au plus offrant, parce que c'est pas comme ça que fonctionnent les chercheuses et les chercheurs, mais qui vont chercher un environnement, parce que le contexte est important, mais ils vont aussi chercher les moyens de travailler. Et moi, ce que je souhaiterais, par exemple, c'est être capable d'offrir à toute jeune chercheuse ou jeune chercheur qui est recruté au CNRS, un package d'accueil, comme ça se fait dans un certain nombre de pays, pour lui permettre d'être directement opérationnel.
Chloé Deligne, compte tenu de ce qui vient d'être dit et ce qu'on a abordé aussi un peu avant, est-ce que le métier de chercheur a évolué au cours des dernières années et va continuer à évoluer au cours des années futures ?
Oh, c'est une question. Forcément, je dirais, par définition, le métier de chercheur est inscrit dans son époque, dans son contexte. Et donc, oui, il changera comme il a déjà changé. Le rapport aux institutions, le rapport à la société civile, etc.
Ça, aux publications, à la concurrence, à la compétition.
Alors ça, c'est une autre. Oui, voilà. Donc ça, c'est si on rentre davantage dans le sujet. Je dirais que je vais rebondir sur l'extrait que vous avez passé du Premier ministre, qui cite dans ce qu'on pourrait appeler malgré tout quelque chose de l'ordre de la novlangue, hein, l'attractivité, l'économie de la connaissance, le processus de Lisbonne. C'est vraiment ces mots-là, ce sont les symptômes de ce qui est en train d'arriver. Alors, moi, je parle plutôt de l'université parce que nos paysages sont différents en France et en Belgique. Mais donc, qui sont les symptômes de ce qui est en train d'arriver à la recherche, aux chercheurs au sein des universités. C'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus soumis à des injonctions qui viennent de l'extérieur, qui viennent des agences, qui viennent de l'Europe et qui sont de moins en moins l'expression de leur pratique et de l'auto-organisation. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui a profondément marqué l'évolution de la recherche au cours des 20 dernières années, peut-être depuis le processus de Bologne qui a été mis en place au début des années 2000.
Ce qui fait un bon chercheur, c'est, et Stéphane Beau le mentionnait tout à l'heure, c'est le temps aussi, le temps qu'on a à consacrer à ces travaux, la possibilité de le perdre aussi, ce temps. C'est ce que disait Peter Higgs, prix Nobel de physique en 2013, juste après avoir reçu son prix, un an d'ailleurs après la confirmation de l'existence de la particule pressentie par le chercheur. Il disait, mais finalement, moi, au moment où j'ai commencé mes recherches, je ne savais pas trop où aller. Est-ce que ça, c'est encore possible aujourd'hui, Stéphane Beau ?
Sans doute plus difficilement, et je pense que c'est aussi très différent selon les disciplines. Alors, il y a un grand enjeu qui est bien sûr le temps de la durée de thèse. Dans toutes les universités en France, je pense que c'est pareil en Belgique, il y a une pression qui s'exerce pour que la thèse se fasse en 3 ans, maximum 4 ans, etc. Et bon, bien sûr, il faut bien voir que les conditions de réalisation de la thèse sont très différentes selon les disciplines. Je trouve que j'ai une nièce qui a fait une thèse de chimie, elle me racontait que tous les jours, elle allait sur sa paillasse et tous les jours, elle avait des résultats, donc sa thèse a été soutenue 3 ans plus tard sans problème. Quand on fait une thèse d'histoire, de sociologie, d'archéologie, d'histoire de l'art, ben voilà, c'est plus long. Et donc, ça, c'est un point essentiel. Et c'est pour ça que, à l'université, on se bat contre nos collègues scientifiques, entre guillemets, sciences dures, parce que justement, eux, ils ont tendance à transposer leur modèle dans toutes les autres disciplines. Non, en sciences sociales, on a besoin, non pas de 10 ans, mais on a besoin d'un peu plus de temps. Et effectivement, ce que vous avez dit est très juste. Dans une recherche, on avance, on doute, et après, on va pouvoir réorienter sa recherche selon les archives qu'on a trouvées, selon les entretiens qu'on a pu faire. Et ça, ça me semble assez différent. Je voudrais juste donner un exemple qui me paraît exemplaire, historique. Il se trouve que dans le domaine de la sociologie de l'immigration, la France a un auteur qui est très traduit en anglais, en espagnol, en italien, qui s'appelle Sayad Abdelmalek. Il a intégré le CNRS en 77, il avait 44 ans. Et voilà, c'était tard peut-être, mais c'est quelqu'un qui a pris le temps de chercher. Et grâce à son travail de fond, essentiel sur l'immigration, 30 ans plus tard, entre guillemets, la sociologie de l'immigration en France tient devant de la scène grâce à ces travaux qui ont été fondateurs. Donc je pense qu'effectivement, cette question du temps, elle est décisive. Alors il s'agit bien sûr de moduler, mais dans un premier temps, je pense qu'en tout cas, nous, les sciences sociales, on a besoin d'un peu plus de temps. Et c'est vrai qu'on est structurellement en conflit avec nos amis scientifiques.
Le temps à consacrer à ces travaux et pas forcément à la communication, au management ou à la recherche de crédit, c'est ça aussi ce qui fait un bon chercheur aujourd'hui, Antoine Petit?
Bien sûr, mais le temps est vrai aussi en sciences dites dures. Et je vais vous donner un exemple très concret. On parle beaucoup tous en ce moment d'intelligence artificielle, et en partie de deep learning, l'apprentissage profond, dont on a l'impression qu'il est sorti il y a 6 mois ou presque. Les algorithmes d'apprentissage profond, les premiers datent d'il y a 30 ans. D'accord ? Donc même dans des domaines comme l'intelligence artificielle, oui, il faut laisser du temps, il faut accepter que...
Vous avez les moyens de le faire aujourd'hui ?
On a, c'est important de se les retrouver, ces moyens.
Je pense vous ne les avez pas, donc mais il faut le...
Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un système où il faut être capable de donner du temps aux chercheurs. C'est-à-dire, il faut d'une part, effectivement, l'affranchir d'un certain nombre de contraintes administratives pour lesquelles il n'est pas forcément en plus le plus compétent. Et je pense que moi, ce que je mettrais en cause, c'est pas tant la notion d'appel à projet. Tous les grands pays scientifiques ont des agences. Je pense que la vraie question, c'est si vous avez un projet, à ce moment-là, vous devez avoir suffisamment d'argent pour pouvoir conduire votre recherche. C'est ce que fait, de mon point de vue, très bien l'European Research Council, l'ERC européen. C'est ce que fait moins bien l'ANR, mais c'est un des sujets de discussion.
L'Agence nationale de la recherche.
C'est un des sujets de discussion dans le cadre de la préparation de la loi.
Il nous reste 2 minutes. Chloé Deligne.
Oui, bah justement, sur ce dernier élément qui citait l'ERC, je voudrais tout de même apporter des remarques critiques par rapport à ça. Donc effectivement, l'ERC, si vous avez le Graal, ce qui s'apparente comme le Graal aujourd'hui, c'est-à-dire de décrocher ce type de financement, en fait, c'est assez incroyable de se dire que c'est un financement qui permet justement de donner les moyens à un chercheur ou une chercheuse star, donc on est vraiment dans le régime de la star, pour enfin pouvoir travailler.
Antoine Petit n'est pas d'accord.
L'ERC a trois volets à l'ERC qui s'appellent Starting, Consolidateur et Advance selon votre niveau de seniorité après la thèse. Et des gens qui ont une starting sont pas des stars, sont peut-être des futurs stars, mais c'est des gens qui sont 2-3 ans après la thèse.
Ils font partie d'un star system qui se construit évidemment sous nos yeux.
Ils font partie des meilleurs chercheurs reconnus par leur
père. Revenez toujours sur le concept de meilleur chercheur. Parmi les meilleurs chercheurs, je sais, c'est un discours, le meilleur, la meilleure, on est toujours dans cette histoire de compétition et du champion, de la star, alors que la recherche, ça se fait d'abord horizontalement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai l'impression les managers de la recherche aujourd'hui sont vraiment pétris de cette idéologie de l'excellence, qu'il faut organiser la compétition généralisée entre tous, d'où sortiront les meilleurs.
Antoine
Petit. On n'a jamais prouvé que cette sélection des meilleurs faisait de la meilleure recherche.
Si vous voulez, rapidement, il nous reste 30 secondes.
L'histoire du CNRS, 80 ans d'histoire, c'est un certain nombre de phares scientifiques et je pense que malheureusement, on ne peut pas financer tout le monde.
Combien de petites mains pour ces phares scientifiques?
Mais bien sûr, c'est pour ça qu'on recrute.
Combien de femmes à la maison pour ces stars scientifiques?
Rapidement, le dernier mot.
On peut dire aussi que les chercheurs, ce sont des labos. Et là, on n'a pas le temps. Le changement de structure des labos, le fait qu'on ait une sorte de montée en puissance des grands labos, à mon avis, ça a eu un effet pervers. C'est-à-dire que l'avantage d'un labo, c'est qu'on échange en permanence avec des gens avec lesquels on a une forte affinité.
Et donc sortir les stars du système, c'est aussi reporter la violence sur tous les autres.
J'espère qu'on aura donné des clés à nos auditeurs pour comprendre un peu mieux cette question de la recherche aujourd'hui, des enjeux qui tournent autour de cette recherche. Merci à tous les trois. Antoine Petit, PDG du CNRS, Stéphane Beau, professeur de sociologie à l'Université de Poitiers, Chloé Deligne, historienne, membre de l'Atelier des chercheurs pour une désexcellence des universités. Merci au bureau de Radio France à Bruxelles pour la réalisation du duplex. Merci également à l'équipe du Grain à Moudre d'été, Marguerite Caton, Élodie Piel, Margot Leridon, Roxane Poulain et Valentin Berg. Thomas Jost à la réalisation, mise en onde Jean-Guilain Meige. Pour réécouter cette émission, l'application Radio France ou le site France Culture, site d'ailleurs sur lequel vous pouvez retrouver un dossier signé Chloé Leprince consacré à ce vaste sujet.